10h29 minutes. Es-tu une fan de séries américaines?
J'aime quand même, mais tu le sais, hein, je suis pas une grande cinéphile et fan de séries à la base.
As-tu déjà vu la série Lie to Me?
J'en ai entendu parler.
Il y a un gars qui est là-dedans qui est capable de détecter en te regardant parler, à la façon dont tu te positionnes, le regard est capable de détecter si tu lui mens ou si tu lui dis la vérité.
Ouais.
Puis c'est une série qui avait attiré pas mal l'attention parce que ça mettait la visibilité sur un métier qu'on connaît très peu, les synergologues.
Oui, puis je veux dire, c'est précis et pointu quand
oui.
même.
Il y en a il y a beaucoup de synergologues en Europe. Je ne sais pas s'il y en a énormément en Amérique, mais pour ce qui est du Québec, on en a quelques-uns. Et on a le plaisir d'en accueillir un aujourd'hui. Son nom, c'est Manuel Constant. Il est synergologue, expert du non-verbal. Je pense qu'on peut dire ça de lui aussi.
Ben oui, en bon québécois, je pense que c'est plus facile pour les gens à comprendre. Là. Emmanuel, je t'en te débaptiser en partant, ça va pas bien. Manuel, bon matin!
Bon matin, vous deux.
Merci d'être là. Comment, toi, Manuel Constant, t'en es venu à t'intéresser au métier de synergologue?
Ah, moi, ça date de tout jeune. En fait, j'étais très, très, très intéressé par le comportement humain. J'ai eu un parcours très, très, très atypique, mais tout ce qui était psycho-anthropologie, psychométrie, puis un jour, la synergologie, c'est venu... ça s'est imposé à moi.
OK. Mais ça fait combien d'années que tu pratiques ce métier-là?
7-8 ans à peu près.
7-8 ans, donc. C'est-tu arrivé en même temps que la fameuse série « Lie to Me » ou t'as commencé avant?
Ben moi, contrairement à beaucoup d'autres, j'ai écouté la série après m'être formé. Okay. Il y a beaucoup de gens qui, après avoir écouté la série, se sont formés. Moi, ça n'a pas été mon cas.
Puis, t'as-tu remarqué qu'il y avait des défauts dans cette série-là? Est-ce qu'on coupait les coins pas pires?
Ben, c'est sûr qu'on est, c'est Hollywood, hein, donc c'est très, très, très romancé. C'est drôle parce qu'à la fois, dans la vie, on peut, quand on est assez ferré là, avec le métier, on peut voir encore plus de choses que ce que l'acteur principal voyait dans ses trucs, sauf qu'il y a quelque chose qui nous distingue vraiment dans la vie de tous les jours, c'est que lui avait une attitude très confrontante, très arrogante. Tu sais, c'est moi qui sais, puis je te vois, puis je te devine, là, finalement.
Ouais.
On est très loin de ça, en fait, en synergologie, parce qu'il faut poser des questions pour valider ou invalider nos théories, toujours.
Écoute, on a 1 million de questions, puis les auditeurs ont des questions aussi. 418-971-1021, 418-971-1021. On est avec quelqu'un qui est synergologue, qui est un expert du non-verbal. Donc, si vous avez des questions, textez-nous, puis on va les passer à Manuel.
Comment tu deviens expert, en fait, du langage corporel? Parce que je comprends le principe de la synergologie. En même temps, on dirait que j'essaie de réfléchir à ce que tu apprends, mettons, pendant tes études, là, puis j'ai de la misère à m'imaginer. Parce qu'au final, on a tellement tous des personnalités différentes, des aspects différents. Je veux dire, il n'y a personne qui réagit de la même façon. Les gens gênés qui vont avoir des comportements qui peut-être veulent dire quelque chose normalement, mais qui au final, pas tant. T'sais, on dirait que c'est tellement complexe. J'ai de la misère à comprendre exactement comment tu peux devenir expert du langage corporel.
Tu as soulevé plusieurs points très intéressants dans ta remarque et ta question. Premièrement, on peut devenir expert du langage corporel. Tu sais, c'est pas légiféré, hein, c'est comme le coaching. Donc, je veux dire, demain matin, quelqu'un peut dire qu'il est expert du non-verbal, puis les gens vont le croire sur parole. Il y a plein de chemins qui mènent à Rome, donc dans ce cas-là. Moi, mon parcours en synergologie a été d'une durée de 3 ans, donc c'est quand même pas négligeable. Puis, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est des tendances comportementales, hein. c'est pas des clés, c'est pas une science absolue. Donc, on est en sciences sociales, un peu comme la psycho. Donc, c'est des indices, des indicateurs, c'est toujours des tendances. Mais dans les tendances, il y a des tendances qui se dégagent de ça, qui sont assez fiables, relativement fiables. Donc, on parle d'un taux de fiabilité d'environ 80-90% pour la plupart des indicateurs, là.
Ah, c'est très bon. Puis, écoute, Manuel, moi, j'ai déjà eu le même reproche de tous mes employeurs, OK? Dans des conférences, quand il y a une réunion d'équipe et tout ça, je suis pas mal tout le temps en mode écoute dans ma tête, là. Je suis en mode écoute, mais ce que je laisse croire à mes patrons, puis ça m'a souvent été reproché, c'est que je semble être totalement détaché des choses que les patrons peuvent me dire.
Indifférent.
Alors que c'est tout à fait le contraire. Puis c'est pour ça que les patrons me prennent la peine de me dire, parce qu'ils me disent, tu sais, quand on te rencontre en réunion avec toute la gang, tout en équipe, t'as de l'air complètement détaché, t'as de l'air désintéressé, mais t'appliques les choses qu'on t'a demandées. Mais quand on te voit en situation où tu devrais comme être très ouvert avec les deux coudes sur la table puis dire « oui, patron », j'envoie le signal contraire de ce que je voudrais envoyer. C'est-à-dire, j'aimerais ça que, moi, que mes patrons sachent que je les écoute, mais ma face dit tout à fait le contraire. C'est comme si ma face s'en fichait. Tu perçois ça comment?
Mais d'abord, j'ai une question pour toi, Yannick. Est-ce que tu serais prêt à dire que les gens te disent que tu as peut-être peu d'expression faciale dans la vie?
Ouais, c'est ça, ouais.
Bon, mais ça, c'est un peu un problème quant à la gestion des attentes des gens. C'est-à-dire que toi, il n'y a absolument pas de problème, là. Je veux dire, moi, j'ai le même problème, entre guillemets.
Bon.
Moi, à la maison, mon surnom, c'est la face de plâtre, pour vous donner une idée.
Wow!
Donc, c'est ça, c'est pas nécessairement un compliment, mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que les gens qui ont moins d'expression faciale, c'est pas un défaut ni une qualité. C'est juste que dans la tête des gens, ils s'attendent à ce que on soit un peu plus comme la plupart des autres humains, puis qu'on ait plein d'expression faciale. Et donc, comme il y en a moins, quand eux s'attendent à ce qu'il y en ait, ça pose problème pour eux.
Mais est-ce que ça se
contrôle? L'interprétation de ton... Pas vraiment, non. La vraie... Pour faire une réponse courte à ça, est-ce que le langage corporel se contrôle? C'est très, très, très peu, puis c'est très inefficace, voire contre-productif. Donc, la réponse courte, c'est non.
OK. Mais est-ce que, en jasant avec un synergologue, là, je pourrais-tu développer des trucs, justement, dans ces fameuses réunions-là, pour que mes patrons disent « Ah, ben il y a de l'air plus réceptif qu'avant, tu sais. Y a-t-il quelque chose qu'il faut que je change? » Parce qu'honnêtement, tu sais, j'ai toujours été de même. Je suis très relax dans la vie. Fait que quand je suis en mode écoute, là, je peux être, tu sais, les jambes bien écartées, effoirées sur le siège, les deux coudes sur les accotoirs.
Mais c'est vrai, Manuel, parce que je te jure, j'ai ce sentiment-là par rapport à Yann, même en one-on-one. Là. Des fois, j'y parle et je suis comme, OK, il s'en fout complètement de ce que j'essaie de dire en ce moment.
Mais dans le fond, Manuel, pas en tout. C'est juste que je suis en mode écoute, mais j'ai l'impression des fois que je fais mal les choses. En discutant avec un synergologue comme toi, tu pourrais-tu m'aider justement à essayer de travailler un peu sur ma façon d'être?
Moi, je te rassure que tu ne fais pas mal les choses. En fait, il n'y a personne qui fait mal les choses. Que le langage corporel d'un individu X, à un moment donné, dégage, c'est ce qui l'habite à l'intérieur. Donc, il n'y a rien qui est mauvais ou négatif là-dedans. Donc, en fait, on a le pouls de la personne. C'est-à-dire que si toi, tu es tranquille, tu es très dans ta tête, tu es cognitif, tu écoutes quand même, tu n'es pas obligé d'être hyper... stimulé, intéressé ou très démonstratif là-dedans. Mais encore une fois, on en revient aux attentes des autres. Donc, moi, ce que tu pourrais avoir comme truc en me consultant, c'est pas pour changer ton propre langage corporel, ce serait pour interpréter celui des autres. Et j'en arrive à dire qu'au final, ça servirait peut-être pas mal plus à tes patrons, puis là, je veux pas me faire chicaner par eux. Ça servirait peut-être plus à eux pour te comprendre, okay. Toi, parce que ton langage corporel, il n'est pas incorrect. Okay. Il est juste différent de ce à quoi il s'attend.
Puis là, on embarque peut-être un peu dans la psychologie, qui est une autre discipline, mais j'ai l'impression des fois que les gens qui ont moins confiance en eux peuvent essayer d'aller chercher des signaux. Tu sais, quand la personne dit quelque chose de drôle, elle s'attend à ce que la personne qui soit en face éclate de rire ou est comme les petits yeux bridés, là, comme quoi, « Ah, ce qu'il est en train de dire là, c'est coquin, c'est drôle. » Moi, j'ai pas toujours ces expressions faciales-là. Fait que si la personne n'a pas confiance en elle, ça peut être un peu difficile. Question un peu plus personnelle, Manuel. Quand tu es avec ta famille, es-tu encore synergologue ou tu laisses ta job de côté?
Je laisse ma job de côté, mais en même temps, c'est un peu comme quelqu'un qui a appris une seconde langue, admettons l'anglais. Je veux dire, tu peux pas désapprendre l'anglais. Donc, quand quelqu'un parle anglais, tu le sais. Ben moi, quand je vois les gens, je les vois quand même. Donc, c'est juste que j'interviens pas. J'en fais pas grand-chose, à moins que je considère qu'il y a un enjeu comme, par exemple, une bombe conjugale qui s'en vient ou un truc comme ça.
Et avec les enfants, es-tu capable de détecter les mensonges? Quand c'est les tiens, mettons, je sais pas si t'as des enfants.
Oui, j'en ai, mais là, ils sont rendus, sont déjà partis de la maison, donc c'est des adultes. Oui, on est capable. Là, ça devient une question un peu plus complexe, là, puis on n'entrera pas trop là-dedans pour pas endormir les auditeurs, mais le langage corporel, il y a une petite partie de né, mais il y a une grosse partie d'acquis.
Okay.
Et je dirais que l'acquis de ça, ça se fait, c'est une transition lente, là, mais alentour de l'âge d'adolescent, on commence à avoir acquis pas mal les signaux. Je vais donner un simple exemple, là. Le fait de dire aux gens que ça va, quand ça va pas, ben tu sais, ça, c'est une façon de dire quelque chose avec sa bouche puis d'envoyer d'autres signaux avec son corps. Mais ça, les enfants qui sont très, très, très jeunes, ils vont pas mentir là-dessus. Quand ça va pas, ils vont le dire.
Puis est-ce que... Fait que c'est pas un mythe, là, le fait que vous pouvez littéralement détecter le mensonge. Parce que j'ai entendu de certaines personnes que non, c'est pas vrai, ça. Puis de d'autres que oui, on peut vraiment savoir quand quelqu'un nous ment. Puis que ce serait même utilisé dans des techniques, là, au niveau de la police. Puis fait que c'est vrai, là.
En fait, c'est vrai, mais c'est surévalué. Dans le fond, encore une fois, on se base sur des tendances qui fonctionnent relativement bien, mais il faut être dans un contexte hyper contrôlé. Donc, dans une salle d'interrogatoire, ça va. On est capable de déceler la plupart du temps quand quelqu'un ment ou d'en avoir une idée. Mais dans la vie de tous les jours, on n'a pas toujours ce contexte-là. On peut pas mettre une lampe dans le visage de quelqu'un, puis l'asseoir, puis le diriger avec des questions. Les gens s'enfuient de ça. Donc, on a des idées, on a des tendances qui nous aident. Mais c'est surévalué. Puis souvent, les gens qui ont ces compétences-là vont un peu, pardonnez-moi l'anglicisme, mais les flasher, parce que les gens, avec leur ego, ils aiment bien ça, se sentir spéciaux, puis très, très, très compétents, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tant que ça.
Puis est-ce que mettons qu'on y a-t-il des signes? Tu sais, moi j'ai beaucoup entendu mettons les gens qui fuient le regard ou qui vont regarder à gauche parce qu'ils sont en train de pas être totalement honnêtes avec toi. Est-ce des choses sur lesquelles on peut se baser? Y a-t-il des signes comme ça qui sont francs pour vous?
Non, ça c'est, j'irais même jusqu'à dire que c'est de la pseudo-science, là. C'est tellement radicalisé, tellement sursimplifié que ça fonctionne pas du tout, là. Il y a mille et une raisons pour lesquelles on peut regarder, par exemple, à droite. C'est tout décortiqué en détail, en synergologie, mais il faut les connaître, ces raisons-là. Donc, c'est pas en écoutant quelqu'un nous parler ou sur YouTube ou en lisant un livre qui nous dit « regardez à droite », ça veut dire que la personne ment. C'est pas comme ça qu'on détecte le mensonge. C'est trop simple.
C'est comment qu'on le détecte?
Voulez-vous vraiment des tendances là,
Ben
présentement? Je
oui,
peux en nommer quelques-unes.
je suis vraiment curieuse.
On aime ça, puis d'après moi, les auditeurs
Ah,
viennent de monter le son dans la voiture.
Ben, parfait, je vais en nommer quelques-unes. Gardez en tête avant que je commence que c'est des tendances, ce n'est pas une science absolue. C'est juste des aides pour peut-être imaginer que quelqu'un pourrait mentir.
OK.
Bon, c'est très sursimplifié. Quand quelqu'un ment, la plupart du temps, on pense, on entend dire que la personne va détourner leur regard. Non seulement c'est faux, mais c'est plus l'inverse que d'autres choses. La plupart du temps, quand on ment, on va regarder la personne dans les yeux parce que la première chose qu'on doit faire, c'est on doit savoir si elle a gobé notre mensonge. Parce que si je suis en train de te mentir, puis je considère que par ton expression faciale ou ton langage corporel, tu n'as pas encore gobé mon mensonge, bien, je vais continuer à beurrer la tartine. Alors qu'à l'inverse, si je considère que tu m'as gobé, tu as gobé mon mensonge, bien, je vais arrêter de parler parce que sinon, je vais ajouter de la suspicion sur mon dos. Donc ça, c'est une des premières choses, c'est que la plupart du temps, les menteurs, quand ils mentent, vont avoir tendance non seulement à vous regarder dans les yeux, mais à ne pas cligner des yeux en plus. C'est une tendance, rien de plus. Autre tendance, il peut y avoir un changement de rythme dans le corps, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut bouger pas mal quand il parle. Et puis, soudainement, quand tu abordes un sujet où la personne ment, la personne arrête de bouger. Elle est complètement immobile quand elle parle, ou à l'inverse, quelqu'un qui est un peu comme moi ou Yannick, qui bouge peut-être moins que d'autres dans la vie, puis là, soudainement, dans la production d'un mensonge, se met à gesticuler puis à faire ce qu'on appelle la surparticipation du surjeu. Il peut avoir ça aussi. Donc, c'est deux indicateurs, il y en a d'autres. Je ne sais pas si vous en voulez d'autres, mais.
Ben oui, il y en a.
Eh bien, mon
Mais
Dieu!
écoute, on a plein de questions. Moi, quand je raconte une histoire qui est déjà arrivée, tu sais, ma façon à moi d'aller fouiller dans ma mémoire, c'est de me l'imager dans ma tête. Fait que je la revis. Et là, toi, tu dis, ben, quand les gens commencent à gesticuler alors que tout le temps était tranquille, moi, je commence à gesticuler quand je raconte mon histoire parce que j'ai l'impression de revivre ce que je suis en train de vous raconter.
Ouais.
Fait que si je te parle de la fois où mes enfants étaient là, en t'en parlant, je les vois, je suis capable de les situer. Puis même, je peux te dire où, oui, je parlais avec Joshua, tu sais, avec mon bras.
Oh, il était à gauche
Il
de toi,
était à droite
ouais.
ou à gauche, tu
Oh.
sais. Fait que ça aussi, quand tu dis, c'est une tendance. Mais des fois, effectivement, il faut connaître l'individu ou regarder un peu, tu sais, 2 heures de vidéo pour voir,
Ouais.
OK, de temps en temps, quand il essaie d'expliquer quelque chose, il n'est pas en train de mentir, il est en train de revoir un peu le souvenir qu'il est en train de faire en te le
Ouais.
racontant.
Moi, Manuel, je veux un autre exemple, mettons, juste parce que je sais que les auditeurs aiment ça, puis je suis très curieuse
Hey,
aussi.
Manuel, petit chum, il va manger une sacrée volée ce soir avec tous les trucs que tu donnes à
Je prends
Audrey.
des notes là.
Eh bien là, c'est fabuleux, en fait, la transition, parce que Yannick, tu es extrêmement perspicace. Tu as nommé à ma place une autre des grandes tendances, c'est que normalement, quand on raconte quelque chose qu'on a vécu pour vrai,
Ouais.
on va, pas tout le temps, mais souvent, en parler en gesticulant comme quand on était là. C'est-à-dire que tu l'as un peu nommé, quand tu parles de telle personne qui était là, quand tu parlais d'un truc, puis là, tu la pointes à gauche dans tes gestes parce qu'elle était à ta gauche. Mais on peut se douter que c'est probablement la vérité parce que tu revis le truc. Tu mimes certains trucs dans ton espace quand tu le revis mentalement parce que tu le racontes. À l'inverse, quand les gens mentent et qui raconte vraiment un gros bobard là, par rapport à une histoire détaillée, par exemple, quelqu'un qui se fait coincer par la police, il va mimer certains gestes, mais il va le faire un peu en 2D, en deux dimensions. Donc, un peu comme si c'était sur une feuille de papier, puis les objets, les personnes, il ne les mettra pas au bon endroit quand il va faire des gestes. Donc, ça, c'est un très bon indicateur. Mais tu sais, je clôt le truc en disant, là, on a sursimplifié, je vais dire en bon québécois, là, capotez pas avec ça, allez pas vous faire des ennemis là, en jugeant les gens avec ça. On discute là, ce matin, on s'amuse.
Ça prend plus que ça, probablement.
C'est ça. Quand Audrey gronde Tchum à la maison puis il a les bras croisés, est-ce qu'il est tout le temps réceptif ou il l'est pas pantoute?
Ah, ça, c'est les bras croisés qui représentent la fermeture. C'est l'emblème du non-verbal. Puis en fait, c'est une croyance, c'est un mythe. C'est pas que c'est pas complètement faux, mais la plupart du temps, il y a d'autres raisons qui cachent ça. Ne serait-ce que on peut se croiser les bras parce qu'on a froid. Bon, c'est une raison assez simple. La raison la plus. L'état qui habite un individu le plus fréquemment quand il a les bras croisés, comme toi présentement, Yannick, même si les auditeurs ne te voient pas, c'est une position d'écoute confortable. Donc, tout simplement, on écoute, on est attentif, on est confortable comme ça. Il n'y a rien de plus que ça derrière ça. Et oui, environ, là, c'est dur à chiffrer, là, mais une estimation grossière, oui, environ 15-20 % du temps, ça peut représenter un manque de réceptivité ou une fermeture. Point.
Qu'est-ce qui représente le plus une fermeture de façon corporelle si c'est pas les bras croisés?
La crispation du corps. Donc, immédiatement, quand les épaules remontent, il y a une crispation. S'il y a une crispation qui n'était pas là avant, évidemment, donc sur un certain sujet, ben, ça nous donne un indicateur qu'il y a du stress. Il y en a plein d'autres, mais la tension dans les doigts, quand quelqu'un se joue avec les mains ou certains tics. Mais oui, les bras croisés font quand même aussi partie d'une tendance lorsque les gens sont fermés, mais il faut décortiquer ça.
Il y a un texto qui est rentré, puis ça fait un peu un lien avec la journée d'actualité qu'on vit aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui nous dit « Bon matin à vous, votre invité doit être fasciné en observant François Legault. Est-ce que tu exerces le non-verbal sur nos politiciens? »
Quand on regarde un Donald Trump, un François Legault, un Justin Trudeau, est-ce que toi, tu te poses des questions en tant que synergologue à savoir si ces gens-là sont à l'aise, s'ils mentent, je ne sais pas, moi, ils essaient de cacher quelque chose? Est-ce que tu le vois, ça?
Je vais amorcer ma réponse en disant que vous n'avez pas idée de la quantité de messages privés que je reçois sur tous les réseaux pour que je décode les politiciens. Dans le temps de la pandémie, là, c'était complètement hallucinant. Là, je devais me créer des templates pour dire aux gens, là, j'ai pas le temps de gérer ça, là, tu sais. Mais moi, personnellement, je n'analyse jamais les politiciens ou à peu près jamais pour une raison qui est très simple. Puis je sais que c'est décevant pour les auditeurs, là, mais la raison étant que je manque de contexte. Moi, je ne fais pas dans la suranalyse. La suranalyse, c'est le pire ennemi de mon métier. Si on se met à vouloir juger les gens, tu sais, quand tu veux trouver une réponse, tu vas la trouver. Moi, si je décide qu'un politicien est un arnaqueur, un menteur ou qui fait partie d'un complot, ben je vais trouver des signaux hein, qui vont faire mon affaire. Donc, je m'empêche de faire ça parce que quand on regarde un politicien, il est enfermé dans une petite boîte qu'on appelle la télévision, là. C'est très réducteur. On voit pas l'environnement, on voit pas à quoi il réagit, on n'a pas l'historique des trucs. Donc, je trouve ça très délicat et moi, je touche pas à ça.
Dans ton day-to-day, là, quel genre de gens tu évalues? En fait, ma question, je vais même la simplifier. C'est quoi ton day-to-day, Manuel Constant? En passant, on parle avec un synergologue qui est expert du non-verbal. Toi, tu te lèves le matin, c'est quoi ta job? Est-ce que c'est des gens qui te consultent? Est-ce que c'est des. Dans des conférences, on dirait que j'ai de la misère à m'imaginer comment tu fais ton travail au quotidien?
La réalité, c'est qu'on fait ce qu'on veut avec ça. Puis moi, j'ai choisi de me positionner différemment dans ce milieu-là. C'est que moi, je forme les gens ou je fais des conférences. Donc, moi, je veux que les gens soient outillés. Je veux faire un peu des mini-moi, là, des mini-experts quand je quitte une salle. Donc, je veux donner des outils aux gens pour qu'ils puissent lire leurs interlocuteurs ou mieux les cerner assez rapidement, là.
T'es comme le Starbucks des synergologues.
Si on veut.
J'aime ça. Non,
Il
mais
veut faire des mini-mois.
oui, c'est que, hein?
Ben
Quel pourcentage le non-verbal va occuper en communication? Parce que j'ai le sentiment, moi, quand je m'adresse à quelqu'un,
oui. Ouais.
que c'est beaucoup pour une première impression, le langage non-verbal.
Et la réponse était dans la question. Oui, c'est beaucoup. Après, encore une fois, c'est un mythe, là. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent là-dedans, là, puis on les nommera pas tous, là. Il y en a des très populaires, mais on ne peut pas chiffrer ça. Même si ça provient de certaines études scientifiques qui datent, soit dit en passant, de 1967, on ne peut pas chiffrer ça parce que dès que tu changes la situation, le moment, l'humeur, les individus qui sont là, ça change complètement la donne. Je pourrais imaginer le truc, là, mais on n'aura pas trop le temps, mais gardez en tête que le non-verbal, le langage corporel, compte, joue un rôle très, très, très majeur dans la communication humaine, mais on n'est pas obligé de le chiffrer.
OK. Fait que ça, c'est pas. C'est parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on s'y rattache beaucoup. Tu sais, je vais prendre un exemple super personnel, mais moi, quelqu'un qui me regarde pas dans les yeux quand je parle, ça me tape ses nerfs. Quelqu'un qui est plus fermé corporellement, j'ai l'impression de pas l'intéresser. Je deviens comme moi-même un peu fermée puis gênée. Tu sais, j'ai l'impression que pour moi, ça parle 90% plus que ce que tu vas me dire. Tu sais, quand on dit qu'il faut que les bottines suivent les babines, là, on dirait que pour moi, ça rentre un peu là-dedans.
Tu as raison. Moi, je pense que ça compte énormément. C'est juste que, comme je disais tantôt, d'une situation à l'autre, ça change. Je vais donner, en fait, deux exemples diamétralement opposés. Premier exemple, c'est facile de dire, là, tu sais, 93% de la communication, c'est non-verbal. Tu sais, ça, c'est le fun pour flasher dans une conférence. Moi, je fais pas ça parce que c'est pas vrai, ça se chiffre pas. Bon, premier exemple, tu gagnes à la loterie ce soir. Tiens, tu gagnes 1 000 000. Puis demain matin, t'arrives au bureau. Puis là, tu vois Yannick. Puis t'as hâte de lui annoncer la nouvelle. Mais Yannick a l'air complètement abattu. Il t'a pas encore parlé. Et dans son visage, dans son expression, dans son langage corporel, tu comprends que c'est pas le temps de lui lancer ta bonne nouvelle au visage. Là, ce qui vient de se passer là, c'est que probablement tu vas lui demander comment ça va. Donc, 100% du langage corporel a occupé l'espace parce que ça a changé le cours de l'histoire. Yannick t'a envoyé des signaux non-verbaux qui t'ont dit que c'était pas le temps de faire tel truc. Là, dans ce cas-là, c'est 100%. Mais allons aller à l'opposé. On est jeudi après-midi, tu te fais convoquer dans le bureau du patron. Tu arrives dans le bureau, puis il dit Audrey, t'es slacké. Voici ton 4%. Mais là, le non-verbal, on s'en fout. Le message, le verbal, là, les mots ont tellement de puissance. C'est ça qui est important dans le moment présent, qu'il fasse soleil, qu'il fasse pas soleil, que la personne elle a les bras croisés ou pas, on s'en fout. Il t'a dit que tu étais slacké. Donc là, c'est le verbal qui est 100%. Mais en fait, on navigue entre ces deux eaux-là tout le temps. Mais on peut dire que la plupart du temps, ça a une très, très, très grande incidence, sur nos relations.
Est-ce qu'il y a des spécialistes en ressources humaines ou encore est-ce qu'il y a des gens bon, qui deviennent enquêteurs? Eux, ils ont leur propre technique d'interrogatoire, c'est correct, mais pour ce qui est de la synergologie, est-ce que ces gens-là peuvent s'intéresser à la synergologie pour leur métier?
Bien, moi, des ressources humaines, j'en forme de plus en plus, vraiment là, par dizaines. Il y en a de plus en plus qui s'y intéressent et c'est très correct. Pour ce qui est des enquêteurs, je ne veux pas scinder là, ou diviser. Ils ont leur technique à eux. Ce n'est pas de la synergologie. C'est boudé par la synergologie est boudée par la plupart du milieu policier.
Okay. Parce que pourtant, il y a des choses qui
Mais tu sais, moi, par
s'apparentent.
la bande.
Ouais. Il y a des choses qui s'apparentent dans ce que tu m'as dit tout à l'heure quand un individu raconte son histoire, raconte son témoignage, puis l'enquêteur pose des questions. Souvent, il va se rendre compte, Manuel, que l'histoire n'est pas nécessairement vraie parce que l'individu n'est même pas capable de situer l'autre individu qui était-tu à ta droite ou il était à ta gauche? Mais si tu l'as déjà vécu, tu t'en souviens où est-ce qu'il était? Il était à droite ou à gauche? Tu sais, ce genre d'information-là, c'est de l'information hyper pertinente, là.
Tout à fait. Puis je vais juste clore en disant que des enquêteurs, des enquêtrices policières, j'en forme par la bande qui viennent se former chez nous parce que leurs patrons ne veulent pas leur payer ça. Puis moi, les témoignages que j'ai, c'est que ça change complètement leur pratique. Ça bonifie leur intervention puis leur interrogatoire. Fait qu'à partir de là, qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, c'est pas ça me concerne pas, là.
Et on pourrait se parler toute la journée. J'ai tellement d'affaires qui me viennent en tête. Je pense au dating, je pense à, t'sais, le corporel dans des situations très, très, très précises. On s'en fera une jasette, Manuel Constant.
Ouais, puis d'ici là, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, la série Lie to Me parle de ton métier. Tu m'as conseillé tantôt la première saison parce que les deux autres, ils valent pas la peine. C'est diffusé sur quoi? Sur
Sur Disney+.
Disney+.
Ouais, Disney+,
voilà.
C'est 3 saisons, mais effectivement que la première est meilleure, il paraît, que les autres.
Manuel Constant, pour les gens qui veulent en savoir plus sur la synergologie, on te rejoint comment?
Je suis accessible sur tous les réseaux sociaux, là. Je ne les nommerai pas tous. Je pense que votre préféré va faire l'affaire. Sinon, ma compagnie s'appelle Synergo, Synner, traditiongo.com. Vous allez avoir toutes les infos là.
Merci beaucoup, Manuel. Passe une super belle journée.
Plaisir, vous aussi.
Merci. Bye
Salut.
bye. Là, avec tous les trucs qu'ils t'ont donné, pauvre
J'ai
chum à
des notes,
maison.
Là. Non, mais je trouve ça fascinant parce que c'est tellement vrai. En même temps, on a ça en tête. Tu sais, moi, les gens qui détournent le regard, on dirait que je le remarquais chez les autres, puis je me disais, ah, cette personne n'est pas fiable. Je trouve ça drôle de voir que c'est l'inverse de la vie d'un professionnel. On entend tellement d'affaires, puis on dirait qu'à un moment donné, plus tu l'entends, plus tu commences à le prendre pour acquis. C'est niaiseux, dans le fond, là. Mais je trouve ça particulièrement intéressant. Pour réentendre ça, en passant, ça va se passer sur le blvd.fm. Là. Je vais vous mettre ça sur le site à l'instant.
Dans les prochaines secondes, on a le plaisir de jaser avec Julie Lesage. On l'appelle Julie la Texane. C'est une Québécoise qui habite au Texas depuis plus de 20 ans. Et elle va nous raconter un peu comment elle a vécu ses élections hier. Je pense qu'étant au Texas, ça doit être un peu plus du côté de Donald Trump. Mais qui sait? Elle nous le dira après la pause. J'ai très hâte de lui jaser. 10h54, on s'arrête. Reg against the matin.